Oui, bonjour, je m'appelle Vincent et je gère actuellement la librairie La Belle Soiras qui est ouverte depuis un petit mois au 7 rue Émile Legrel, tout près du casino.
Comment est venue l'idée d'ouvrir une librairie indépendante à Arras?
Ma l'idée vient du fait de penser, de considérer qu'il y a effectivement un espace pour une autre librairie Soiras qui soit indépendante dans le sens des choix fait concernant les livres et les éditeurs. Donc nous, on pense qu'on est complémentaire par rapport à l'existence d'autres librairies, puis important et bien installé sur Arras depuis longtemps, et qu'on pense qu'il y a l'espace pour faire un choix différent des livres et proposer un choix différent des livres.
Est-ce que ça a été difficile à monter ce projet? Comment ça s'est passé quand on va voir peut-être le banquier pour lui demander un prêt pour ce genre de commerce, est-ce qu'il vous avait accueilli avec les bras grands ouverts ou pas tellement?
Non, c'est très difficile parce que la librairie indépendante est considérée comme un secteur en crise, comme un secteur pratiquement en voie d'extinction presque. Et donc, dans cette optique-là, ce n'est pas évident d'avoir des ouvertures, surtout côté des banques. Et donc, il faut mettre un peu la main à la poche, c'est ce qui a été fait aussi pour essayer de mettre en route ce projet, mais avec beaucoup de doutes, beaucoup de problèmes du point de vue du financement, surtout pour les années à venir. On espère de réussir à dépasser le cap du stock initial, de l'achat du stock initial, de la gestion du stock initial pour arriver à un moment donné à un roulement qui nous permet aussi d'être tranquille du point de vue financier.
Qu'est-ce qui explique, selon vous, la crise des librairies indépendantes?
Disons que la librairie indépendante en France, grâce à la loi sur le prix unique du début des années 80, appelée la loi Lang, a permis effectivement un gros développement de la librairie indépendante en France. La librairie indépendante en France, elle est arrivée jusqu'à 60, même 70% du marché du livre dans la période où il était la plus développée. Et que donc, effectivement, il y avait pas de problème pour ce type d'activité d'avancer. Disons que depuis une dizaine d'années, fin des années 90, début des années 2000, des grosses concentrations financières se sont développées dans le secteur de l'éditorie et par ricochet dans le secteur de la diffusion et distribution des livres. Et que cela a amené à une politique de distribution et diffusion des livres qui a fortement développé la concentration de la vente des livres dans les grandes surfaces, et dans les grandes surfaces ils sont pour livres, des surfaces commerciales pour livres, et qui en réduisant fortement la part de la librairie indépendante, qui aujourd'hui elle a chuté probablement autour de 40%. Et ce n'est pas simplement la question d'une occupation de cet espace par des gros groupes, c'est aussi la question que ces gros groupes, ils sont en occupant le maillon intermédiaire entre l'éditeur et le libraire, c'est-à-dire le maillon de la diffusion et distribution, ils imposent des conditions de paiement, des taux de remise et aussi des conditions de choix ou pas choix du côté du libraire des livres qui, bien évidemment, ils rendent très lourd la démarche de la librairie indépendante, qui est indépendante du point de vue de la forme. Comme c'est le cas de la librairie La Belle Arras, parce que c'est des personnes qui individuellement ils sont mis leurs mains à la poche, ils sont eu quelques prêts bancaires et qui sont fondés sur une SRL, qui sont même directement gérants et travailleurs à l'intérieur, disons. Au-delà de cette indépendance de forme, après il faut voir dans la réalité, cette indépendance, ils peuvent être assumés si derrière il y a des gros groupes de diffusion et distribution qui essaient d'imposer un certain choix de livres, qui imposent des délais de paiement trop serrés par rapport au cycle de vie du livre et qui imposent aussi des taux de remise qu'il baisse de façon importante la rentabilité de l'activité de la librairie indépendante. C'est ça, globalement, pour moi, la raison de la crise de la librairie indépendante. Ce n'est pas Internet, ce n'est pas le numérique. N'importe quel libraire il peut aussi ouvrir son site Internet et donc être complémentaire à ce niveau-là. Le livre numérique n'est pas la même chose que le livre objet, que le livre disons, qu'on achète, donc ce sont des choses différentes. Non, surtout la question de la librairie indépendante, c'est une question de crise à cause de cette concentration importante à niveau éditorial et à niveau de la diffusion et de la distribution des gros capitaux financiers qui sont comme unique et seule logique le fait de rentabiliser leur investissement et que donc à partir de là, ils s'imposent certaines conditions économiques, financières et même pratiques du point de vue de la gestion de la permanence du livre à la librairie.
Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce mécanisme par lequel les grosses maisons d'édition, les gros diffuseurs, finalement, imposent les livres aux librairies, quoi?
Bah, disons que c'est très simple. Les gros diffuseurs, je fais un exemple du plus important, qui s'achète par le groupe Lagardère. Donc c'est une maison d'édition d'abord, mais en même temps, c'est un diffuseur-distributeur. Et donc... Déjà, ça c'est très malsain parce qu'un éditeur qui en même temps est un gros diffuseur-distributeur, bien évidemment, il fausse complètement la relation entre l'ensemble des éditeurs parce qu'en ayant un éditeur en place aussi importante dans la diffusion et la distribution, ils peuvent conditionner et favoriser au maximum disons, ses propres maisons d'édition. Parce qu'achète représente énormément de maisons d'édition, en défavorisant d'autres réalités éditoriales, surtout les plus petites et les moyennes. Disons. La question donc, de la diffusion et distribution à ce niveau-là, je prends l'exemple d'Hachette, qui peut imposer à un libraire une remise très basse, 10 points à moins que la remise moyenne octroyée aux librairies indépendantes, si le libraire il veut choisir lui-même l'ensemble des livres qu'il va commander à ce groupe-là. Bien évidemment, Hachette va proposer des taux de remise plus importants si un parti de ce choix il est fait directement par Hachette. On appelle ça l'office, c'est-à-dire quelque chose un peu de mécanique dans lequel régulièrement, tous les mois, le diffuseur distributeur il envoie sans qu'il soit demandé par le libraire 20, 30, 40, 50 livres qui sont considérés par le diffuseur distributeur en question comme c'est là qui l'intéresse le plus à lui de vendre. En général c'est de nouveautés dans lesquelles on cherche la perle rare de leur point de vue, c'est-à-dire le best-seller qui rentabilise toute la production d'un coup. Et donc, ils ont cette logique d'envahir la librairie des livres qui ne sont pas choisis d'abord par le libraire, qui en plus, c'est une genre, c'est des coups qu'on fait pour essayer de voir si ça passe ou pas. On les garde un mois, deux mois sur les rayons, et après on les renvoie au destinataire, et en général, ils finissent au pilori. Quand un livre, il faut savoir qu'en général, il lui faut un an de permanence en ces librairies pour être connu et pour avoir sa chance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui arrivent et partent presque tout de suite parce que ce système-là qui s'est mis en place. Ça, c'est un des réalités, disons, des mécanismes avec lesquels la diffusion et distribution centralisée à niveau des grosses éditions intervient et est mise en discussion en dépendance de ce qu'on appelle les librairies indépendantes.
Info 30 avec Vincent qui gère la librairie indépendante Label à Arras.
Alors ici dans la librairie Label, vous avez fait d'autres choix. Alors comment vous faites les choix des éditeurs pour lesquels vous travaillez plutôt?
Mais disons que d'abord, à cause de toutes ces dynamiques-là, dans le rapport entre la librairie, entre le libraire et les groupes de diffusion et distribution, à cause de ça, pour le moment, on est dans une situation de début, donc c'est une situation la plus difficile parce que le stock initial est très lourd du point de vue financier. Et on a essayé de négocier avec justement ces gros groupes des délais de paiement plus importants parce que, étant donné que c'est un stock initial, on n'a pas envie de le rendre avec un roulement hyper rapide tout de suite parce qu'on a des problèmes de trésorerie à un moment donné. Donc normalement, on demande des délais de paiement plus longs pour pouvoir gérer ce stock de façon plus normale et plus affinée par rapport à notre propre choix et au choix des personnes qui vont venir dans librairie. Et ça, on n'a pas réussi à l'avoir. Et donc, on a réussi à l'avoir par rapport à quelques diffuseurs distributeurs. Et donc, globalement, les choix qu'on a fait d'abord ont été limités à cause de cette dynamique-là. Et disons qu'on a deux diffuseurs distributeurs qui sont acceptés de négocier avec nous certaines conditions et qui, pour le moment, on les respecte, et donc avec lesquels on travaille. Mais surtout, on travaille directement avec des éditeurs. Des éditeurs qu'on a choisi comment? Ben, on a choisi des éditeurs à partir d'une liste, disons, de 2400 éditeurs. Il y en a même plus en France, mais disons, nous, on a eu possibilité d'accéder à la connaissance de ces éditeurs-là en parlant par le biais de leur site ou par le biais de certaines publications pour voir un peu leur ligne éditoriale. Il y a beaucoup d'éditeurs, il y a beaucoup d'éditeurs indépendants en France et beaucoup d'éditeurs qui sont une ligne éditoriale bien cohérente, bien précise. Et donc, pour nous, c'était la première chose à faire, c'était ce choix vis-à-vis des éditeurs. Trier les éditeurs qui nous intéressaient du plus, du point de vue de notre sensibilité subjective, de notre, des choix qu'on aurait fait pour caractériser la librairie dans un certain sens. Et donc, on a fait ce choix-là, d'abord d'éditeurs, de choisir les maisons d'édition, et après, par rapport à la maison d'édition choisie, choisir les auteurs et les titres. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et la caractérisation de la librairie, même si c'est une librairie de type général, c'est-à-dire qu'on peut trouver autant de la littérature que que de romans policiers, que des sciences humaines, que de l'art, que de la bande dessinée, etc. On essaie quand même d'avoir une tendance plutôt internationale, c'est-à-dire essayer en perspective, parce que c'est pas possible du point de vue financier d'avoir tout de suite ça, mais en perspective avoir une tendance à, comment on peut dire, je ne dis pas privilégié parce qu'il y aura toujours de la production directement française, mais à augmenter le maximum possible le livre qui vient d'ailleurs, la pédagogie pour les enfants qui vient d'ailleurs, la littérature qui vient d'ailleurs, la science humaine qui vient d'ailleurs. Et donc, dans ce sens-là aussi, le choix sur les éditeurs et sur le type d'ouvrage a pesé aussi. Et après, on verra avec le temps le type de demande qui vient de la part des personnes qui viendront à nous voir. Et toujours en perspective, on a l'intention de nous ouvrir au tissu associatif arrangeois pour voir les besoins libres qui sont les associations et voir de travailler avec eux sur des initiatives autant autour du livre que de leur activité, disons.
Donc oui, il y a ces deux axes, hein, littérature du monde, ouverture sur les associations arrageoises. Je reviens sur le terme que vous avez utilisé, c'est une librairie généraliste, pas une librairie alternative finalement.
Non, alternatif, je n'ai pas dans quel sens on peut définir une librairie alternative. D'alternatif, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a au limite le fait que vous trouvez des éditeurs, des ouvrages que vous ne trouverez pas ailleurs. En France, il y a énormément de livres qui sont produits, énormément de maisons d'édition. Donc c'est pour ça qu'au départ, je disais qu'il y a toujours la place pour une librairie indépendante dans une ville comme Arras. Après, il faudra voir si on est capable de l'assumer, de la faire marcher, si on est capable, du point de vue financier, de la gérer et de la supporter, disons, à cause de tous les problèmes que j'expliquais tout à l'heure. Alternatif, non, parce que, donc, général, ça veut dire quoi, général? Ça veut dire sans se spécialiser forcément sur un domaine de savoir en particulier, on essaye de toucher les demandes les plus importants du savoir humain. Par exemple, les sciences humaines, économie politique et sociologie et philosophie. Et du point de vue de la littérature, la littérature classique, la littérature contemporaine, bien évidemment la littérature étrangère, un peu de policiers. Et à niveau de la production de jeunesse, des maisons d'édition toujours un peu particulières. Non, ça reste effectivement une librairie de type général. Alternative dans le sens que peut-être on peut trouver ici des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs, tout simplement. Ou parce que c'est des maisons d'édition qui sont pas diffusées parce qu'elles sont trop petites et que nous on a contacté directement, ou parce que c'est des maisons d'édition qui, tout simplement, ne sont pas choisies par les autres librairies. C'est Soaras. Il faut dire une chose un peu précise, quoi. Soaras, il y a un grand salon de livres, aujourd'hui très reconnu, tous les premiers du mois de mai. Eh bien, beaucoup des maisons d'édition qui sont présentes dans le salon de livres d'Arras, ils ne sont pas présents après dans les librairies arrageoises. Nous, par exemple, on a effectivement 2, 3, 4, 5 maisons d'édition, on a choisi nous-mêmes, qui sont présentes dans le centre de libre. Il y a des personnes qui viennent nous voir et nous disent « Ah, ça, je l'ai connu, mais un centre de libre, pas ailleurs. » Voilà, c'est déjà, disons, une façon alternative, quelque part, de proposer un choix. C'est dans ce sens-là que je considère, moi, le mot alternatif, quoi.
Alors peut-être justement dans les maisons d'édition qui sont présentes dans votre librairie, est-ce que vous pourriez donner peut-être 2-3 exemples de maisons d'édition et puis de préciser un petit peu leur démarche et pourquoi vous les avez choisies?
Disons, au-delà de parler des maisons d'édition comme nominativement, que je préfère qu'ils soient les personnes intéressées bien directement à les découvrir, je parlerai de leur contenu. Par exemple, on a deux maisons d'édition littérature. Donc une maison d'édition caractérisée par le fait qu'il fait des courts romans ou des longues nouvelles, si on peut définir ça comme ça, qui sont comme choix d'écrivains, des écrivains français ou européens, toujours extrêmement de qualité, et avec une facture même de l'objet livre en tant que tel très important, très joli, le livre en tant que tel, c'est un véritable objet, quoi. Et à l'intérieur, il y a toujours des illustrations faites par des artistes importants. Donc on a cette maison d'édition-là, par exemple, qui on trouve pas ailleurs sur Arras, et qui on a ici à la librairie La Belle, ou on a une autre maison d'édition qui a la même caractéristique de faire du beau livre, de marier toujours un auteur avec un artiste peintre ou graphiste sur du papier de grande qualité, qui a la différence de la maison d'édition dont j'ai parlé avant, c'est une maison d'édition méditerranée, basée autant en France qu'au Maroc, et qui donne la possibilité de faire lire des auteurs de qualité, autant au niveau littéraire que des poèmes, du Portugal, de l'Espagne, de la Syrie, de la Palestine, d'Israël, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et de l'Égypte. Voilà, ça c'est à niveau... Et à niveau de littérature, on a aussi le choix des maisons d'édition qui reproposent des anciens ouvrages de littérature qui ne sont pas trop connus par le grand public. Par contre, leurs auteurs sont toujours très connus, par exemple Stevenson, Jules Verne, des écrivains dont on connaît les ouvrages les plus connus, quoi, et qu'on ne sait pas qu'ils ont écrit beaucoup d'autres choses de très grande qualité, et qu'il y a une maison d'édition qui est un peu spécialisée dans cette démarche-là, et que donc ils proposent de couvrir et faire découvrir ces auteurs-là par rapport à des livres qui sont écrits, qui ne sont pas trop été diffusés, distribués en général. Ou des maisons d'édition, toujours, qui sont à niveau de la littérature, qui sont un souci toujours de la facture du livre, de comment faire le livre, comme en tant qu'objet, et qu'en même temps, ils sont des écrivains qui essayent de produire un type de littérature qu'on appelle fantasiste, dans le sens une interprétation fantasiste à la réalité, c'est-à-dire du réalisme fantasiste, qui vient par beaucoup d'Amérique latine, avec des écrivains très connus et très, très, très connus dans le monde, comme Gabriel Garcia Marquez. Mais ce type de littérature-là, il a un renouveau en Europe ces derniers temps. Il y a des maisons d'édition qui travaillent dans ce sens-là et qui proposent ce type de ligne éditoriale, ce type de livre-là. À niveau, disons, des enfants, on a effectivement pas mal de maisons d'édition qui sont extrêmement internationales, donc qui proposent une pédagogie d'autres pays. Après, on essaie de remplir une bibliothèque, de proposer une bibliothèque asiatique avec de la littérature chinoise, indienne et japonaise. Et à niveau des sciences humaines, c'est surtout des maisons d'édition qu'ici on ne trouve pas trop, qui ne sont pas trop commerciales, qui sont vraiment une ligne éditoriale très stricte du point de vue des choix philosophiques, politiques, économiques et sociologiques. Et voilà, donc c'est globalement un peu ça.
Pensée simplement comme un espace de consommation ou est-ce que c'est aussi pensé comme un espace de rencontre entre les gens aussi?
Bien évidemment, c'est une initiative d'abord commerciale. Donc, c'est-à-dire commerciale au sens que la survie de la librairie dépendra de l'équilibre financier des comptes. Ça, c'est quelque chose d'objectif, d'immatériel, d'inévitable. Dans cet équilibre, on met en compte le fait que nous ne se payera pas pour un certain période. Donc, quelque part, on subventionne cette initiative par ce biais-là. Parce que s'il faudrait s'y payer tout de suite, je ne pense pas qu'on arriverait à garder ouverte cette initiative-là, d'un côté. De l'autre, effectivement, on a eu la possibilité d'avoir un local avec un loyer normal, disons. Parce qu'aujourd'hui, à Arras, il y a des loyers dans le centre-ville qui ne sont pas du tout normaux et qui empêchent effectivement l'ouverture du commerce vraiment indépendant. Concernant l'autre aspect de la librairie, bien évidemment que nous souhaitons qu'il soit un lieu de rencontre. Par exemple, un lieu de rencontre autour des contenus des livres. On peut imaginer des dynamiques qui se créent et qui se développent autour de la librairie, dans le sens du cercle de lecture au cercle de réflexion. Par exemple, 7, 8, 10 personnes qui lisent le même livre et qui après ils se réunissent pour développer le point de vue de chacun sur ce livre et rentrer ainsi dans cette dynamique, une démarche de réflexion collective. Je considère qu'aujourd'hui on a besoin de cette réflexion collective-là parce que les choses vont mal partout dans le monde et ici en France aussi. Et à niveau, qu'on a besoin d'une nouvelle réflexion, qu'on a besoin d'une nouvelle compréhension des choses et qui tout seul, on n'y arrivera pas. Et peut-être que tout doucement, en commençant avec des cercles de réflexion collective, même tout petits, même autour d'un livre, même autour de plusieurs livres, que ce soit à niveau des sciences humaines, que ce soit à niveau aussi de la littérature, c'est possible effectivement peut-être de sortir d'une pensée trop individuelle et trop conditionnée par le tas d'informations qu'on reçoit tous les jours et qu'on se pose un peu pour voir ensemble comment on peut voir la réalité, l'interpréter, la connaître et peut-être aussi un jour la transformer parce qu'il n'y aura pas de transformation de la réalité sans connaissance. Et donc, voilà, des rencontres, oui, dans la librairie, des initiatives aussi, vis-à-vis, toujours dans la relation avec les deux associatives. Pour nous, c'est la dynamique, au fond, de la plus importante. Disons que le côté commercial, c'est le moyen pour pouvoir, à un moment donné, développer la librairie dans ce sens-là. Tout simplement parce que c'est ça, une librairie indépendante. C'est ça, le fait de proposer des livres. Il y a un côté qu'on vend des livres, il y a un autre côté qu'on propose des livres. Donc, qui sont un objet culturel, un instrument de médiation, un média, un instrument de connaissance. Et que donc, quand on parle de culture et de connaissance, on parle automatiquement de rencontres, on parle automatiquement de possibilités d'initiatives collectives. Autant ouvert vers l'extérieur que simplement dans la structure même des librairies. Mais nous, pour le moment, on ne peut pas lancer directement cette démarche-là. On attend, parce que bon, on n'a pas le temps au départ, parce que c'est très difficile, les premiers mois, de gérer le stock initial et de le faire rouler comme il faut et arriver à un certain croisière de vitesse qui nous permet après de faire autre chose à côté. Mais c'est aussi en général aussi, c'est une démarche qui peut être en demande dans la librairie, qui peut venir de l'extérieur, qui peut être une proposition des personnes qui sont intéressées à ce type de démarche-là et qui peuvent utiliser la librairie autant comme lieu que comme un endroit dans lequel ils peuvent avoir les livres nécessaires pour avancer dans des initiatives dans ce sens. Nous, on a fait déjà une initiative avec le Collège du Présent, l'association qui édite les livres, la maison d'édition qui édite les livres et qui aussi organise le Salon du Livre ici à Arras le mois de mai, concernant le livre Violence des mineurs. C'est ici qu'a été faite la présentation de ce livre avec lecture du texte théâtral et musical dans le lieu dans lequel est installée la librairie, parce que c'est un lieu un peu plus large, dans lequel il y a une association, le Jardin des Salmets, qui c'est une association de culture du monde par le biais de l'enseignement de la danse, des danses du monde. Et donc, il y a une structure conséquente au point de vue de son logistique qui nous a permis d'accueillir une centaine de personnes le 27 octobre pour présenter ensemble à Collège du Présent le livre, leur dernier livre de leur production. je voudrais juste revenir sur la question de comment organiser le marché du livre globalement. Donc la question de l'éditorie, de la grosse éditorie, du secteur de la diffusion-distribution, et après à la fin, le libraire. Sur cette question-là, s'il faudrait avancer en continuité avec la logique de la loi Lang sur le prix unique du livre, que c'était à l'époque, au début des années 80, c'était un choix fait par le gouvernement de l'époque, effectivement, pour, en considérant que le livre n'était pas une marchandise comme les autres. D'ailleurs, il y a beaucoup de marchandises comme le livre qui ne sont pas des marchandises comme les autres. Et donc, cela, concordamment, ça signifie qu'il lui faut des conditions d'organisation et de vente tout à fait particulières et tout à fait encadrées. Effectivement, ce processus a été démarré avec le prix unique du livre. Mais ça, c'est la condition initiale pour éviter une concurrence par le prix qui tuerait tout de suite la petite et moyenne librairie indépendante et qui favoriserait la constitution unique et monopoliste du gros groupe. Donc, mais ça, c'est une condition initiale et nécessaire qui a eu sa fonction, qui a fonctionné, mais qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Et donc, si aujourd'hui on doit réfléchir à nouveau sur la question de la librairie indépendante, moi, je vois qu'il y a un choix, et je le dis clairement. Pour moi, il faudrait qu'une partie du marché du livre soit transformée en service public, et particulièrement sous maillon intermédiaire de la diffusion-distribution, tout simplement parce qu'objectivement, ce maillon-là, il faudrait que ce soit un service public, parce qu'objectivement, ce maillon-là, il a besoin d'une logistique extrêmement importante. Donc c'est la question de permettre à un éditeur d'être présent sur tout l'ensemble du territoire national. Donc il faut des structures de transport centralisées et importantes. Il faut des structures de stockage centralisées et importantes. Si ce n'est pas géré en termes de services publics, inévitablement, ce type de secteur-là, il ne peut être géré que pour des gros capitaux qui, bien évidemment, à ce moment-là, y imposeront leur logique de profit, de rentabilité, dans lequel le livre va devenir une marchandise comme les autres. Parce que le seul but pour ces groupes-là, c'est cela. Donc, pour moi, la seule solution serait cela. La continuité du prix unique du livre, c'est le fait de rendre service public cette partie-là du marché du livre, qui est une partie qui, par définition, il a besoin de grosses structures, de plateformes informatiques importantes, de plateformes de logistique importantes et de plateformes de transport très importantes. Et tout le reste, en vérité, il a besoin d'une taille petite. Que ce soit l'éditeur, que ce soit le libraire, ils n'ont pas besoin de grosses tailles. En vérité, c'est des services le libraire, c'est un service de proximité, en résidant dans son territoire à niveau local, et donc il n'a pas besoin, en vérité, de s'élargir et de grossir. Si cela, il arrive comme des grandes surfaces commerciales de livres, c'est parce que derrière, il y a eu une dynamique de concentration et décentralisation d'initiatives financières qui, pour rentabiliser l'investissement, on augmente la dimension de l'entreprise. Mais objectivement parlant, matériellement parlant, vendre des livres, proposer des livres au public, on peut le faire avec un réseau de petites et moyennes librairies et on n'a pas besoin d'une concentration à ce niveau-là. Et à niveau de l'éditorie, pareil. Par contre, effectivement, à niveau de la diffusion et distribution, par définition, je répète encore une fois, il faut des structures logistiques importantes et donc seulement un service public ils peuvent rendre à ce secteur-là la fonction du maillon intermédiaire et pas à ce moment-là d'imposer à partir de ce maillon-là, grâce aux groupes qui sont installés dans ce maillon-là, certaines conditions qui n'ont plus rien à voir avec l'économie réelle du livre. Quand je parle des services publics, ça ne veut pas dire forcément nationalisation de cette partie-là du marché du livre. Ça peut signifier aussi qu'il soit géré par des associations, considérées des associations d'intérêt public, subventionnées par l'État, et des associations gérées avec la participation des lecteurs, des libraires, d'éditeurs, c'est-à-dire les acteurs principaux de ce qu'on appelle l'économie du livre. C'est dans ce sens-là que moi je vois une possible évolution positive de la situation. Sans cela, je pense qu'effectivement, la librairie indépendante il va être en crise. Mais je ne pense pas qu'il va disparaître. La preuve est que nous, on essaie effectivement d'exister et donc d'aller un peu contre-courant à cette période, depuis quelques temps, de fermeture de pas mal de librairies dites indépendantes.